Je vous invite à écouter Jean 3, 16. Ce sera affiché Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous connaissez ce verset, c'est un des versets qui résume bien la bonne nouvelle, l'Évangile. Et en tant qu'Église évangélique, nous voulons rester fermement attachés à cette bonne nouvelle. Nous voulons la rappeler souvent. Nous voulons non seulement la croire dans notre cœur, mais aussi la proclamer aux autres. C'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Mais vous avez vu qu'au cœur de cette bonne nouvelle, il y a un avertissement. Il y a une alternative. Si celui qui croit en Christ a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils unique que Dieu a envoyé dans le monde, il périra. Périr est un mot fort, c'est un mot plus fort que simplement mourir. Périr, c'est quelque chose de pire que la mort. Et Jésus a parlé ouvertement de la perdition, il l'a fait à plusieurs reprises. À un moment, en Luc chapitre 13, il dit à ses auditeurs qui sont nombreux, il leur dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Et donc aujourd'hui, nous devons comprendre qu'un aspect de la bonne nouvelle, un aspect de la vérité essentielle que nous devons croire, c'est que Dieu va en fait faire mourir, va perdre certaines personnes. Je dis cela parce que le récit que nous allons lire aujourd'hui en Josué est très violent et il risque de choquer nos sensibilités modernes. Avant de le lire et pendant que nous le lisons, nous devons garder en tête ce danger réel de périr. Dieu veut nous secourir parce que le danger est réel. Et s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de salut. Ce n'est pas nécessaire, c'est inutile de nous sauver si on n'a pas de danger. Et alors le christianisme devient simplement une sorte de série de recommandations pour une vie morale, pour un style de vie, penser aux autres, dire la vérité, pratiquer la bienveillance, ce genre de conseils pour le style de vie. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Jésus nous a donné une façon extraordinaire de vivre qui est contre-courant du monde. Mais cette façon formidable de vivre découle du fait que nous avons reçu par la foi le salut par la grâce de Dieu. Il nous a sauvés et donc nous vivons différemment. Mais le salut est l'essentiel, le salut est la clé. Maintenant regardons Josué, on est à chapitre 8 et le message, je l'ai intitulé « Le péché » est fatal. Nous entrons dans une section, on est déjà là un peu depuis la semaine dernière, où le thème est le péché. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons que le péché est folie. Ce matin, nous entendons que le péché est fatal. On va lire l'histoire de la bataille à Haï. C'est moins célèbre que la bataille de Jéricho, mais c'est juste deux chapitres plus loin, dans le même livre de la Bible. Et je vous invite à le découvrir ensemble. Josué, chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter, attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagnera, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. » Car ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette et vous vous emparerez de la ville de l'Éternel, votre Dieu, que l'Éternel, votre Dieu, le livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'ouest d'Haï. Quant à Josué, il passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï. Il était à la tête du peuple avec les anciens d'Israël. Tous les hommes de guerre qui l'accompagnaient montèrent et s'approchèrent d'Haï. Une fois arrivés en face de la ville, ils installèrent leur camp au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade entre Bethel et Haï, à l'ouest de la ville. Lorsque tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'ouest de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les habitants d'Haï s'empressèrent de se lever et sortir à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un endroit fixé, aux côtés de la plaine, sans savoir qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël firent semblant d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville se rassembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et furent ainsi attirés loin de la ville. Tous les hommes d'Haï et de Bethel, sans exception, sortirent contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Tends vers Haï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient, ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Haï virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les habitants d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les habitants d'Haï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fouillard. Ils prirent le roi d'Haï vivant et l'amenèrent à Josué. Lorsque Israël eut fini de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert où ceux-ci l'avaient poursuivi, en les passant jusqu'au dernier au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï, le frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes, tuées ce jour-là, hommes et femmes confondus, tous habitants d'Haï. Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot, tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Josué brûla Haï et en fit pour toujours un tas de ruines qui subsistent encore aujourd'hui. On va interrompre là notre lecture, on va lire la suite du chapitre plus tard. Bien entendu, nous ne pouvons pas lire ce chapitre sans penser à l'actualité que nous connaissons aujourd'hui. Les images qui sont fortes de villes détruites, de guerres qui se passent. Et bien entendu, nous sommes en train de comparer intérieurement les deux, n'est-ce pas? Il y a un récit qui est de la Bible, et puis si vous regardez votre tablette ou les infos d'aujourd'hui, un autre récit qui est celui de l'actualité. Et tout naturellement, on se pose la question, est-ce que ces deux événements sont justifiables? L'événement de la Bible et l'événement de l'actualité. Ou est-ce que les deux sont condamnables également? Ou est-ce qu'un récit est acceptable, justifiable, et l'autre récit est condamnable? Et si oui, alors comment savoir que celui-ci est juste et celui-là n'est pas juste? Je vais essayer de décortiquer un petit peu pourquoi cette guerre en Josué 8 était justifiée. Mais pour donner une réponse courte, si vous n'avez pas la patience pour attendre toute l'entièreté du message, on peut voir que cette période de Josué est une période unique dans l'histoire d'Israël. La situation est bien autre que celle d'aujourd'hui. Nous allons nous concentrer pas tellement sur ce qui se passe sur le plan militaire, mais nous allons nous concentrer sur le sens de ce chapitre, en mettant en avant le péché et particulièrement la malédiction. Je pense que voir ce chapitre à travers l'angle de la malédiction va nous aider. D'abord, la malédiction frappe un peuple. Versets 1 à 22. Je ne vais pas commenter longuement la stratégie militaire. En bref, Josué déploie l'armée en deux groupes. Une partie de l'armée de 25 000 hommes sera avec lui et 5 000 seront cachés derrière la ville. Et l'armée de cette petite ville d'Aï, qui avait gagné au chapitre 7, n'oublions pas, il avait gagné la bataille, va penser qu'elle va vaincre à nouveau. Et donc, elle sort contre l'armée d'Israël, et cette armée va poursuivre Israël. Verset 17, pour rappel. Tous les hommes d'Aï et de Bethel, sans exception, sortirent contre Israël et laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. Mais les 5000 sortent de leur cachette et entrent dans la ville, il n'y avait pas gardé, mettent le feu dans la ville, et verset 19, et les soldats de l'armée de Haï regardent en arrière et disent « Haï ». Il faut bien le dire. Et verset 22, ils sont cernés de deux côtés, devant et derrière. Et donc, ils meurent et la ville est prise. L'armée de Josué gagne et gagne facilement. Cette fois-ci. Alors il y a une part de stratégie là, une stratégie qui est plus normale, si je peux dire, plus pertinente que faire le tour 13 fois de la ville à pied, comme ça avait marché à Jéricho. Ce n'est pas la stratégie qu'il va utiliser à chaque fois. La stratégie est donnée par Dieu. Au début du chapitre, verset 2, remarquez ça, c'est Dieu qui parle et qui dit « place une embuscade derrière la ville ». Cette fois-ci, la stratégie, à nouveau, est donnée par Dieu, mais elle est différente. Est-ce que c'est la raison de la victoire? Est-ce que Josué a finalement trouvé une stratégie qui marche? Et au chapitre 7, il avait perdu les batailles, maintenant il va gagner. Mais non, ce n'est pas à cause de la bonne stratégie que Josué gagne. C'est Dieu qui donne la victoire. Alors, je l'ai déjà dit, parce que quand j'ai prêché sur Jéricho, on a vu ça aussi, n'est-ce pas, que Dieu donne la victoire. Mais ici, c'est clair. À nouveau, verset 1, regardez. « Je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. » Mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Dieu dit « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. » On peut comprendre que Josué avait un peu peur, parce qu'il venait de voir un membre de son peuple mis à mort avec toute sa famille pour son péché. C'est l'histoire d'Achan, au chapitre 7. Peut-être qu'il avait un peu de peur en lui-même en disant « Est-ce que Dieu va nous donner à nouveau la victoire ? Ou est-ce que Dieu nous a abandonnés ? Est-ce que Dieu est maintenant contre nous ?» Dieu lui fait une promesse. « Je te donne le roi, je te donne son peuple, je te donne cette ville, je te donne ce pays. » Et il le répète au verset 7, « L'Éternel la livrera entre vos mains. » Et verset 18, « L'Éternel dit à Josué, « Tends vers Haï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer. » En ton pouvoir. Il n'y a pas de victoire sans l'Éternel. Et ici, s'il y a une victoire, c'est parce que Dieu donne. Mais au chapitre 7, lorsque Dieu refusait de donner la victoire, c'était impossible pour l'armée de gagner, même si l'armée était plus nombreuse que l'armée qu'il y avait en face. Donc, d'abord, on saisit que l'armée de Josué n'a pas gagné parce qu'ils ont trouvé la bonne stratégie, mais parce que Dieu leur a donné la victoire. Mais il y a une autre raison. C'est qu'ici, Dieu veut punir le peuple d'Aï. Le peuple d'Aï doit être puni. J'ai intitulé cette section « La malédiction frappe un peuple ». Et c'est une réaction de la part de Dieu, la malédiction, c'est une réaction de Dieu contre le péché. De temps en temps, dans les livres, les histoires ou dans les films, il est question de malédiction, n'est-ce pas? Vous avez vu ça quelque part? On ouvre une boîte où on met un collier, où on boit cette potion, et puis, oh non, on est maudit. Ou tu es entré dans une grotte, où tu as bu l'eau d'un puits, et tu ne savais pas, mais c'était de l'eau maudite, et puis voilà, tu es maudit. Ça façonne un peu notre idée sur la malédiction, comme quoi c'est quelque chose qui nous tombe dessus, un peu par hasard. Mais quand la Bible parle de malédiction, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas « Oh mince, j'ai pris le mauvais collier » ou « J'ai bu l'eau au mauvais endroit ». Ça ne tombe pas sur quelqu'un par accident. La malédiction biblique vient après le péché. Je vais vous donner des exemples. Adam et Ève, il y avait un seul commandement auquel ils devaient obéir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Et directement après, Dieu dit « Vous êtes maudits ». Caïn et Abel, Caïn, ils étaient deux frères, Caïn a tué Abel dans la Genèse. Et Josué, l'Éternel lui dit « Tu es maudit ». Et ici, dans Josué, nous pouvons comprendre que si quelqu'un perd, si quelqu'un meurt, c'est parce qu'il est maudit. Dieu les a maudits. Ils ne sont pas les seuls à être maudits. Au chapitre 7, la raison pour laquelle Israël avait perdu la guerre, c'était parce qu'ils avaient désobéi. Il y avait Achan qui avait désobéi. Au chapitre 9, Josué a parlé à d'autres peuples et il va leur dire « Vous êtes maudits, peuple ennemi ». Le peuple d'Aï était donc sous la malédiction de Dieu. Tout ce qui se passe ici, au chapitre 8, n'est que l'accomplissement, à leur époque, de la malédiction qui tombe sur tous ceux qui désobéissent à Dieu. Ils périssent. Vous savez, le jugement n'est pas une idée du Moyen-Âge qui a été inventée ou qui fait partie de la mythologie grecque. C'est ce dont parle la Bible. C'est la conséquence de notre révolte contre Dieu. C'est être coupé de Dieu et être sous sa malédiction. Ces gens qui habitaient le pays de Canaan, vous savez, ce n'étaient pas des braves gens qui essayaient de faire de leur mieux pour suivre Dieu, pour craindre Dieu. Rahab est l'exception, n'est-ce pas, par sa foi avec sa famille. C'était remarquable pour une païenne d'avoir cette foi. Mais les habitants du pays étaient pris dans la magie, dans l'idolâtrie. Et il y avait des dérives éthiques notoires à leur époque, dans leur région. Et c'est pour cela qu'ils perdent leur territoire et leur vie. Ça peut nous sembler dur, mais c'est parce que nous avons perdu de vue, nous avons arrêté de croire que le péché est fatal. Et il y a peu de temps, nous avons pensé au fait que c'est il y a 30 ans que Marc Dutroux avait été arrêté. C'était un grand scandale, c'était un criminel, un pédophile qui avait séquestré des enfants et avait abusé d'eux. Et certains, ils les avaient tués. Je me souviens que lorsque Marc Dutroux était arrêté et qu'il sortait du fourgon, on l'amenait au palais de justice pour être jugé, les gens huaient. Et parmi les gens dans la foule qui criaient sur lui, il y en avait certains qui disaient « À mort! À mort !» Et là, on avait le sentiment que le péché, le crime, était grave, suffisamment grave, pour qu'il entraîne sa mort. En fait, c'est comme ça que Dieu voit le péché des Cananéens. Mais c'est aussi comment il voit notre péché. Le salaire du péché, c'est la mort, dit le livre de Romains. Alors aujourd'hui, c'est bizarre parce que les gens vivent côte à côte. Vous pouvez vivre à côté des gens qui ont une vie très différente de la vôtre, d'autres convictions. Quelqu'un qui est venu des Pays-Bas récemment disait qu'aux Pays-Bas, on dirait que c'est un pays bouddhiste. Tellement il y a des bouddhas dans les jardins, des maisons, dans les banlieues de la ville où il habite. Les personnes de diverses religions se côtoient, il y a des gens athées, et on voit que dans la vie, on a plus ou moins la même vie. Pas le même comportement, mais la même vie. Des chrétiens qui sont heureux et qui ont une bonne santé, et d'autres qui ont une vie plus difficile et ont une moins bonne santé et sont malades. Il y a des non-croyants qui ont une vie plus heureuse et qui sont en bonne santé, et d'autres qui luttent avec le cancer ou d'autres choses. Mais en fait, c'est plus ou moins la même chose. La vie présente est plus ou moins pareille pour tout le monde. On ne voit pas la différence de résultat. Si tu crois en Christ aujourd'hui, comment est-ce que ta vie est vraiment meilleure, plus épanouie, plus sécurisée que les autres? On ne sait pas. Mais à travers ce type de passage, nous voyons qu'il y a une différence de résultat après. C'est dans la perspective de l'éternité que nous comprenons réellement ce qu'il y a comme différence, n'est-ce pas? Ce n'est pas maintenant nécessairement qu'on va voir, mais on le voit à travers ce chapitre. L'effet final, le résultat final de ceux qui auront résisté à Dieu, qui se seront révoltés contre Dieu de leur vivant ici sur terre. C'est la malédiction sur le peuple. Mais ensuite, il y a la malédiction sans secours du roi. C'est intéressant que le roi d'Aï est mentionné un peu séparément. Alors bien entendu, à l'époque, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui avec des monarchies, des États, etc. Les villes avaient des dirigeants. Peut-être qu'aujourd'hui, on les appellerait des bourgmestres, mais à l'époque, ils appelaient des rois. Les villes fortifiées étaient des petits royaumes, en quelque sorte. Et donc, ce roi a une place importante dans cette ville, dans cette région. Il semble être un cas à part. Regardez ce qui se passe. Alors, pour Dieu, ce n'est pas un cas à part, parce qu'au verset 1 et 2, il dit, vas-y, tu vas attaquer, je livre le roi d'Aï entre tes mains, et tu traiteras Aï et son roi, comme tu as traité Jéricho et son roi. Mais au verset 23, tandis que les autres vont être mis à mort, regardez le verset 23. Il est dit, ils prirent le roi d'Aï vivant et l'amenèrent à Josué. Donc on se dit, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Est-ce que lui va avoir un traitement différent? Est-ce que lui va être capable d'échapper à la mort quand la malédiction tombe sur son peuple? Dans cette section, juste après le verset 23, on a lu que l'auteur raconte ce qui s'est passé aux autres habitants de la ville. 12 000 sont morts, des hommes et des femmes. Et puis il revient au roi. Quel va être son traitement exceptionnel? Et en fait, il est traité un peu différemment. Mais on va voir ce qui se passe. Verset 29. Il fit pendre le roi d'Aï à une potence et il laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la ville et l'on éleva sur lui un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Comme les autres, il est mis à mort ce jour-là pour son péché. Mais il a une mort à part. Et il y a un indice là que le roi de Haï était incapable de sauver son peuple et qu'il faudrait un autre type de roi pour sauver les gens. Nous qui lisons avec la perspective de l'histoire, pensons à ce roi qui a été pendu au bois, maudit est celui qui est pendu au bois. Et puis, une fois mort, son cadavre est descendu de l'arbre où il avait été mis à mort. Et il est mis sous pierre, pierre au-dessus de lui. Et il y resta. Il faudrait un miracle pour revenir à la vie après ça, n'est-ce pas? Il faudrait quelque chose d'extraordinaire pour enlever la pierre, pour revenir à la vie et pour accorder le salut et la victoire à son peuple. Le roi d'Aï n'a pas pu le faire. Il faudra attendre quelques siècles avant qu'un autre roi puisse être à ce niveau-là capable de faire un miracle extraordinaire. Et il faudrait qu'il soit sans péché, sinon il mourrait dans ses péchés, parce que le péché est fatal. Il y a une troisième section. Mais j'aimerais dire juste un mot sur la bataille spirituelle avant de regarder la troisième section. Le récit de Josué est un récit historique. Ce n'est pas un récit métaphorique ou une parabole ou une légende. On le voit parce qu'au moment où il écrit cela, au verset 29, le grand tas de pierres subsiste encore. Il ne subsiste pas encore aujourd'hui, au XXIe siècle, mais à l'époque, quand il écrivait cela, il pouvait dire, oui, il est toujours là, et la ville est toujours en ruine. La bataille donc n'est pas une métaphore pour la lutte spirituelle, c'est une vraie bataille avec des gens et des morts. Mais nous avons une mission différente qui n'est pas militaire, et notre mission en tant que chrétien a une interdiction de porter des armes pour imposer notre religion, notre foi, nos convictions aux autres. Interdit de nous battre avec les gens des autres convictions pour essayer de les mettre à mort. Ça, ce n'est pas notre appel. Éphésiens 6 est très clair. Éphésiens 6 que je cite, mais il est aussi là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Mais généralement, on s'arrête là. On s'arrête là et on dit, ah oui, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Donc on ne va pas avoir de guerre, on ne va pas avoir d'attentats terroristes, on ne va pas avoir de campagne militaire. D'accord. Mais le verset continue. Le verset dit « Mais nous avons à lutter contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Pas contre les autorités humaines, bien entendu. Pas contre le gouvernement ou le roi de Belgique. Mais contre les esprits. Il y a une lutte spirituelle qui est en train de se passer contre les forces du mal, qui sont des esprits. Et cette lutte nous engage dans la résistance. Je pense que la plupart, c'est la résistance. Et pour résister, nous devons résister contre le découragement, nous devons résister contre la tentation, contre le péché, nous devons résister contre la fuite. Quand on veut abandonner, Seigneur, on doit rester fidèle à Dieu. Ça, c'est la résistance spirituelle. Mais il y a aussi une part de conquête, où on avance avec la Bible, qui est l'épée de l'esprit. On annonce au monde la vérité que le monde a besoin d'entendre. On leur annonce qu'il y a un roi qui règne et qui va les juger. Et aussi par la prière, nous agissons. Lorsque nous prions, il y a quelque chose qui se passe qui est invisible, mais dans les lieux célestes, la lutte continue. Et Dieu permet des avancées parce que nous prions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai, c'est réel, c'est en train de se produire. Et donc, nous avons à prendre cela au sérieux. Non seulement à nous armer pour nous protéger en disant « Je suis couvert par le sang de Christ », mais aussi de prendre les armes pour résister en disant « J'annonce la vérité et je prie, c'est ma radio pour rester en contact avec le commandant en chef, le roi des rois. Je veux être actif dans la lutte spirituelle et pas juste être là en train d'attendre que Jésus revienne. » Mais troisièmement, il y a un avertissement par rapport à la malédiction. Au verset 30 et 35, on voit un autre côté de l'œuvre de Josué, et je vais le lire maintenant. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute qu'on ne travaillait pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur la pierre une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, tenait des deux côtés de l'arche, devant les prêtres et les lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les Israélites de naissance, étaient là, une moitié du côté du mont Garazim, l'autre moitié du côté du mont Ébal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Il avait accompagné les soldats en guerre. Maintenant, Josué agit plutôt comme un prêtre. Il conduit le culte. Et d'une part, on voit sa conformité à Moïse, parce qu'il est le successeur de Moïse, il ressemble un peu à Moïse. Mais ici, il veut aussi que le peuple suive la loi de Moïse, la loi de Dieu qu'il avait donnée à Moïse. Alors, il construit d'abord un autel en l'honneur de l'Éternel. Il offre des sacrifices à l'Éternel. Et il est en train, en fait, de dédier ce territoire à Dieu. Ce n'est plus juste une terre de conquise. C'est une terre acquise, une terre sainte, qui va être dévouée à Dieu. Et il inscrit sur la pierre la loi de Dieu. Ce n'est pas toute la loi, évidemment, mais on imagine les 10 commandements qu'il était en train d'inscrire là-dessus. Et puis, il sépare le peuple en deux. Mais ce n'est pas une division selon une classe sociale, où les prêtres d'un côté et le peuple de l'autre. Ce n'est pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, où les juifs d'un côté et les non-juifs d'origine de l'autre. Ce sont deux camps qui vont être mixtes, des camps de croyants, bien entendu, de fidèles. Mais ils vont proclamer la Bible les uns aux autres. Et nous savons, parce que nous voyons au verset 34, il y a une référence à ce qui s'est passé, que c'est en fait Deutéronome, chapitre 28, qu'il est en train de citer là, qui relate les bénédictions et les malédictions. Il y avait un côté qui disait les bénédictions, si vous suivez Dieu, vous allez avoir ces bénédictions, et l'autre côté qui citait les malédictions du peuple s'il désobéit. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce que c'est simplement pour dire que c'est bien d'avoir la Bible et de pouvoir partager la Bible ensemble en étude biblique ? Certains qui disent ceci, d'autres qui disent cela. Ben, c'est bien, oui, mais c'est plus que ça. Il est en train de leur montrer, vous avez vu ce qui arrive à ceux qui désobéissent. La malédiction. Et ils viennent juste de mourir. Et maintenant, il lit en Deutéronome 28, 20, « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. » Au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses, si tu désobéis. Vous voyez ce qu'il est en train de leur montrer ? Attention ! Parce que vous, même si vous êtes juif, croyant aujourd'hui, vous pourriez désobéir à Dieu. Et si vous abandonnez l'Éternel, il vous abandonnera à la même malédiction. La seule façon de ne pas mourir, c'est de vivre en plein accord avec Dieu, dans la foi à ses promesses et la vie selon ses commandements. Toutefois, il reste en attente. Le péché est fatal et il est inévitable. Ce qu'il faudra, c'est un sacrifice. Meilleur que ceux qui ont été offerts au verset 31, pour le péché du monde, il faudra un sacrifice parfait, un sacrifice divin. Un homme comme nous, mais un homme parfait, pas comme nous, qui serait précieux et dont le sang aurait une valeur ultime pour pardonner des millions et des millions de fautes pour toujours. Alors, ce passage nous donne envie, n'est-ce pas, d'accélérer vers le Nouveau Testament, d'arriver vite au moment où Jésus vient pour enfin nous libérer de cette malédiction qui pèse sur l'humanité depuis Adam, contre le péché. Quand Jésus entre en scène, nous savons que c'est lui qui nous pardonnera. Saisissons l'avertissement qu'il y a aujourd'hui, parce que cet avertissement est pour nous. Et je veux conclure simplement avec quelques pensées pour ce que ça doit changer dans notre regard par rapport à Dieu et par rapport à nous-mêmes. Brièvement, nous ne pouvons pas lire ce texte et dire « le péché n'est pas bien grave ». Si vous sortez aujourd'hui en pensant comme ça, même si vous êtes arrivé en pensant ça, si vous sortez aujourd'hui en pensant que le péché n'est pas grave, c'est que vous n'avez pas vraiment écouté. Mon message aurait été un échec. En tout cas pour vous. On ne peut pas penser que ce n'est pas grave, ou oh, le péché est sans conséquence. Probablement nous considérons tous certaines personnes comme pires que nous. Mais ce serait penser que seulement les habitants de Haï ou de Jéricho méritaient la malédiction, et pas le peuple de Josué. Pourtant, l'avertissement est donné pour le peuple de Josué. Il les avertit, et à travers cela, il nous avertit. Et Jésus le confirme, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. » Alors je voudrais faire appel à vous, je ne connais pas l'état de cœur de chacun d'entre nous, je connais certains qui sont des frères et sœurs, je vais vous parler dans un instant, mais si tu n'es pas encore passé par la repentance, si le péché a juste fait partie de ta vie, tes habitudes, il est encore temps pour te repentir. Il est encore temps pour dire, « Je change de vie, je veux demander pardon à Dieu, je veux qu'il lave mes péchés. » Je ne veux pas être sous la malédiction. Dieu est bon et veut le faire. Mais si tu es en train de te dire, « Oui, le péché est grave, je suis perdu. » Il faudrait voir ça plutôt comme un point de départ. Il faudrait plutôt dire, « Je cours vers celui qui peut me permettre d'échapper à la mort. » Parce que Jean 3,16 dit, « Celui qui croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. » Une des choses les plus tristes dans mon ministère est de voir des gens qui comprennent le péché, mais qui ne comprennent pas le Sauveur. Quelle tristesse, n'est-ce pas, de dire « j'ai gâché ma vie, j'ai fait le contraire de ce que Dieu demandait de moi, je suis un ignoble pécheur », et de s'arrêter là. Donc ça, ce n'est que le premier constat. Après, il faut trouver la grâce, il faut trouver le pardon, il faut trouver la paix avec Dieu. Alors peut-être qu'il faut simplement demander « Seigneur, aide-moi à comprendre » qui je suis, mais aide-moi aussi à comprendre ce que tu veux m'offrir et ce que tu m'offres encore aujourd'hui. Quelle grâce! Mon péché est fatal, mais je ne suis pas mort. Comment se fait-il que je ne suis pas mort dans mes péchés? C'est parce que je suis ressuscité. Celui qui est ressuscité m'a ressuscité aussi d'entre les morts, et je vis pour lui. C'est quelque chose de formidable. Mais je veux aussi parler à un autre groupe parmi nous, aux chrétiens, qui sont sauvés, mes sœurs, mes frères. Il y a peut-être quelques-uns parmi nous qui ont vraiment du mal avec la perdition. Et là, je parle de la tristesse, de ton chagrin, qu'un ami ou un membre de ta famille, un proche, un bien-aimé, est mort dans ses péchés sans jamais rencontrer Christ ou sans jamais reconnaître en Christ la solution pour sa vie. C'est possible qu'on porte cette peine avec nous. Et je comprends que c'est une tristesse. C'est une tristesse dont on ne parle pas souvent, en fait. Notre conscience de l'éternité et de la justice de Dieu ne nous apporte pas que du plaisir et de la joie. Vous savez, quand Jésus s'est approché de la ville de Jérusalem, il a pleuré sur cette ville. Il a pleuré à cause des habitants de cette ville qui étaient perdus. Ils n'étaient pas tous perdus, mais il savait ceux qui étaient perdus. Et il a pleuré. Alors tout ce que je veux dire ici, c'est ne remettez pas en cause la vérité de la Bible. Ce n'est pas parce que c'est difficile à vivre ou parce que nous avons des émotions très fortes que nous devons remettre en cause la vérité de la Bible. Ce que la Bible dit est vrai par rapport à ces choses. Jésus nous a avertis parce qu'il y a réellement un danger. Et nous devons croire que Dieu est bon et que Dieu est juste, et nous devons trouver en Dieu la consolation, même pour ces choses qui sont difficiles à vivre pour nous aujourd'hui. Vous savez, dans la Bible, à la fin, il dit que Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux quand nous serons en sa présence. Je me suis souvent demandé, mais qui va pleurer en arrivant au ciel, à part des larmes de joie? Mais c'est possible qu'on arrive au ciel avec des larmes. Peut-être parce que la façon dont on est arrivé là sera difficile. Mais peut-être aussi qu'on arrivera avec des larmes parce que, comme Josué, on aura vu des amis, des proches mourir sous le jugement de Dieu. Et lorsque nous sommes là, Dieu essuiera les larmes de nos yeux parce qu'il veut qu'on soit consolé. Il veut qu'on soit dans la joie. Et il veut qu'on soit heureux d'être sauvés. Prions. Notre Dieu, quand Jésus, ton Fils, s'approcha de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle et dit : « Si seulement tu avais reconnu ce qui peut te donner la paix. » Nous qui sommes encore en vie, Seigneur, nous avons une opportunité aujourd'hui de reconnaître celui qui peut donner la paix. Ces choses de la guerre et de la mort et de la violence et de la perte sont choses lourdes. Mais en même temps, nous voyons la lueur d'espoir de ce roi que tu as envoyé pour nous sauver. Alors Seigneur, viens à notre secours, viens à notre aide, viens agir dans notre cœur pour la consolation, fortifie-nous quand faiblit notre courage, mais que nous puissions être aussi assidus dans la lutte spirituelle contre le péché, en reconnaissant sa gravité. Que nous puissions aussi, Seigneur, connaître la paix et la joie d'être pardonnés. Quel soulagement de ta bienveillance. Amen.